Vraiment, la psychanalyse est-elle fondée à parler de névrose, voire de psychose chrétienne? Être croyant, serait-ce être malade? Bonjour Marie Romanas.
Bonjour.
Vous venez de publier un livre sur la psychanalyse et la religion. Il s'appelle Le Divan et le Prix Dieu. Il est édité chez Desclée de Brouwer. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, et vous écrivez chaque mois dans l'actualité des religions.
C'est exact.
C'est ça, hein? Quand même, Le Divan et le Prix Dieu. N'aurait-il pas été préférable de mettre comme titre Le Divan contre le Prix Dieu?
Au démarrage de mon livre, oui, mais peut-être pas sur la fin.
Ah, parce que, donc, le démarrage, c'est votre intuition de départ, c'est qu'il y a conflit entre religion et psychanalyse.
Oui, c'était manifeste. Bon, je retraçais un petit peu l'historique à ce niveau-là. Et puis, plusieurs personnes ont pu le vivre pour elles-mêmes. Moi, je l'ai vécu aussi dans ma propre expérience personnelle. J'ai entendu aussi des patients parler d'un conflit qui pouvait exister entre le côté religieux et le côté de la psychanalyse. Donc, effectivement, c'est un conflit qui a existé et qui perdure d'une certaine manière.
Et vous avez eu le sentiment que ce conflit n'était pas tout à fait légitime et qu'il était possible de le dépasser ?
En tout cas, qu'on pouvait s'enfermer dans des clivages ou dans des cloisonnements qui, à mon avis, méritent d'être dépassés largement actuellement. Bon, j'ai fait référence des fois à l'auteur Gabriel Ringlet qui a écrit l'Évangile d'un libre penseur, parce que je crois qu'il pousse beaucoup dans son ouvrage à sortir des étiquettes et qu'on en met encore trop facilement des étiquettes qui cloisonnent, alors que je pense que les choses peuvent être beaucoup plus ouvertes qu'on ne le présente d'habitude.
Oui, et que finalement, les raisons de ce conflit ne sont peut-être plus très actuelles d'une certaine façon.
De moins en moins, je le pense.
Oui, donc il y aurait des a priori un peu des deux côtés qui maintiendraient ce conflit, mais ça n'a peut-être plus lieu d'être.
Je le pense, effectivement, oui. Ça a moins lieu de l'être actuellement.
Oui. Et donc, votre expérience personnelle a été importante dans cette décision d'écrire ce livre?
Oui, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire c'est un parcours à travers mon expérience clinique en entendant des patients, à travers aussi ce que j'ai lu, mais à travers aussi ma propre expérience, parce que moi-même j'ai été tiraillée entre les pôles de la spiritualité, au sens large du terme, et de l'aspect psychologique, et j'en parle dans mon ouvrage.
Et donc c'était important pour vous de faire ce dépassement de conflit.
Tout à fait.
Peut-être aussi dans une société qui aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 30 ou 40 ans.
Exactement, et qui est en train d'évoluer et qui, à mon avis, a intérêt à s'ouvrir à la pluralité. Bon, on parle beaucoup de mondialisation, on voit les côtés négatifs, mais il y a des côtés positifs dans le sens de la rencontre avec des cultures tout à fait différentes. Il y a beaucoup de l'interreligieux aussi. Je pense que aussi des spécialités différentes, par exemple dans les sciences, ont tout à fait intérêt à se rencontrer. Je pense que la psychanalyse et la religion peuvent aussi avoir des choses à se dire.
Oui, il faut avoir le courage de dépasser les clivages, hein, c'est ça qui est important. Mais quand même, entre foi et psychanalyse, ou religion et psychanalyse, il y a quand même un abîme. Je ne sais pas, la foi et la religion, enfin de l'extérieur, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de la psychanalyse, va dire la foi et la religion, ça sollicite l'être conscient, l'être se tourne vers Dieu, mais la psychanalyse, c'est l'inconscient, que la psychanalyse voit partout, disent certains, elle tourne l'homme vers son intériorité. Où est le point de rencontre entre religion et psychanalyse?
Le point de rencontre, alors c'est tout un débat et je ne suis pas arrivée comme ça à le mettre en avant dans mon livre. J'y viens petit à petit, plutôt sur la fin de mon ouvrage. C'est la question de l'être, c'est la question de la vie, du vivant, de qui nous sommes, qui je suis. Et je crois que c'est là où peut-être il y a des choses qui peuvent se retrouver, ou en tout cas des rencontres possibles, des paroles possibles entre un domaine et l'autre.
Dans les deux cas, donc, vous pensez que cette quête de l'identité de l'homme, elle est rencontrée aussi bien par la psychanalyse que
par la religion. La psychanalyse en dit des choses, la religion en dit des choses. Et peut-être que ces deux paroles-là ont à se rencontrer.
Et il y a des points communs aussi dans la méthode, dans les exigences de la quête de l'identité entre religion et psychanalyse?
Du côté de la religion, ce qui a été plutôt avancé, c'est la question de l'initiation, quelque chose comme ça, on pourrait dire. En tout cas, c'est souvent un mot qui est utilisé, l'initiation, et avec l'idée d'une quête intérieure qui, je crois, a été souvent en tout cas dans le christianisme, abandonné cette quête de l'intériorité, si bien qu'actuellement il y a beaucoup de gens qui la recherchent, qui vont chercher ailleurs, et notamment dans le bouddhisme. Il est certain que la psychanalyse parle aussi de quête intérieure, mais en se situant sur les aspects purement psychologiques.
Nous venons d'écouter la musique du film Himalaya. Pourquoi l'avez-vous choisi, Marie Romanès, cette musique de film?
Parce que c'est une musique récente et justement qu'elle fait appel à la pluralité. D'abord, elle est basée sur des chants, des mantras, donc des chants religieux tibétains. On les a entendus là juste à l'instant. L'auteur a ouvert sur des musiques aussi occidentales, avec des instruments occidentaux, un chœur polyphonique de Corse. Et je trouve que justement, cette ouverture entre des cultures complètement diverses donne quelque chose de tout à fait singulier et très riche.
Et donc, ça évoque un petit peu notre thème d'essayer de dépasser le conflit pour trouver ce qui permet la rencontre.
Et la richesse de cette rencontre.
Et la richesse de cette rencontre, c'est cela.
Sa fécondité.
Voilà, voilà. Donc nous continuerons à entendre cette musique tout à l'heure et puis la semaine prochaine aussi. Alors, vous venez de nous expliquer que la question de l'identité est le point de rencontre entre psychanalyse et religion. Alors, de quelle façon la psychanalyse parle-t-elle de cette question? Que nous apprend-elle? Comment devient-on soi-même?
Il faut voir que la psychanalyse est partie de l'étude de Freud sur les névroses, d'abord les hystéries. Donc c'est parti de symptômes, c'est-à-dire que des personnes parlaient à travers des symptômes de quelque chose qui n'allait pas en elles. Le grand génie de Freud, c'est d'avoir compris que c'était des troubles d'ordre affectif, d'ordre psychologique, qui étaient à l'origine de ces symptômes. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à comprendre qu'un être, lorsqu'il n'arrivait pas à se réaliser suffisamment, lorsqu'il était trop détourné de choses fondamentales qu'il habitait, mais peut-être dont il n'avait pas conscience suffisamment, à ce moment-là pouvait présenter des troubles. Donc c'était important que cet être retrouve la voie de qui il était lui-même. Alors ça peut être long, ça peut être très difficile comme traversée, avec des désillusions importantes par exemple, mais de retrouver cette voie-là pour arriver à être mieux.
Oui, et alors comment repère-t-on qu'il y a un dysfonctionnement? Qu'est-ce qui alerte en quelque sorte pour qu'on comprenne que cet enfant ne se développe pas comme il faudrait,
cet adulte.
Ou cet adulte?
Oui, oui. Il y a des symptômes, alors ils sont variés. Ça peut être très souvent ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle la dépression qui recouvre beaucoup de choses. Mais ça peut être des symptômes physiques aussi, ce qu'on appelle somatiques. Il y a des mal-être, il y a ce qu'on a appelé les névroses hystériques, ça c'était les premiers cas, c'est-à-dire des transformations corporelles de problèmes psychologiques, si bien que la personne se retrouvait avec un handicap corporel, mais qui était purement d'origine psychologique.
Donc après, il s'agit de comprendre ce qui se passe sur le plan psychologique.
Exactement.
Derrière le symptôme. Mais alors, quelles sont les grandes difficultés psychiques pour grandir? Quels sont les risques que l'on ne veut pas courir quelquefois pour pouvoir grandir? Est-ce qu'il y a des points...
Le chemin pour grandir n'est pas facile pour personne.
Oui.
Et la grosse difficulté, c'est qu'on a, en tant qu'enfant, à traverser des pertes successives que les psychanalystes appellent les castrations symboliques. Si les conditions n'ont pas été requises pour que ces pertes se fassent, à ce moment-là, le psychisme est retenu dans des zones régressives et à ce moment-là, ça peut créer effectivement des entraves pour la vie de la personne.
Quelles pertes, hein? Quelles sont ces pertes? Rien que le mot de perte, il est négatif. Et c'est oui. Terrible. Pour grandir, il faut perdre.
Il faut mourir à soi-même,
ah,
oui.
Là,
oui,
on trouve peut-être un rapport religieux.
Voilà, psychique. Exactement.
Bon, laissons la religion pour l'instant, mais le psychique. Alors, perte de soi-même, vous pouvez me donner des exemples de situations
ça
très
importantes. Ça commence déjà au moment de la naissance, sortir de l'utérus, de ce cocon si confortable. Bon, il faut sortir et aller vers une vie inconnue. Donc là, il y a un arrachement.
L'enfant peut éventuellement refuser ça?
En tout cas, vivre ça difficilement.
Vivre ça difficilement, oui.
Voilà.
Oui.
Et puis, il y a toutes les pertes, la perte du sein, la perte d'un certain confort, où la mère s'occupe sans arrêt de tous les besoins.
Oh, mais là, vous ne croyez pas qu'on en rajoute un peu? L'enfant, il n'a pas conscience de tout ça. Quand il est si petit, qu'est-ce qu'il... Il ne veut pas perdre quoi que ce soit ou garder quoi que ce soit, non? Vous faites rire, là.
Oui, vous me mettez en boîte.
Hein. Oui, tout à fait, pour que vous m'en disiez un peu plus et que vous nous expliquiez comment vous sentez les choses comme psychanalyste. Donc, ce n'est pas quelque chose de conscient de la part de l'enfant, ce besoin de se refermer ou bien de s'ouvrir.
Au départ, c'est pas conscient, effectivement. Mm-hmm. Mais on le voit à travers les dessins d'enfants, on le voit à travers les rêves, on voit comment il peut y avoir des conflits entre... Parce qu'il y a un vouloir grandir dans l'enfant, une tendance vraiment à la croissance, à la libération, à la séparation. Et puis, il peut y avoir des choses qui, à l'inverse, maintiennent dans le giron et que ça se gère pas bien. Ce conflit, il est inévitable, mais l'important, c'est de le traverser pour en sortir. Et bon, à ce niveau-là, pour certaines personnes, ça peut être plus difficile que pour d'autres et certaines peuvent être bloquées dans ce processus.
Voilà. Donc, tout au long de la croissance, enfin, finalement, et de la vie, il y a cette démarche de savoir perdre pour s'identifier de façon autonome, pour grandir, pour se séparer,
pour s'individualiser.
Oui. Et alors c'est là que peut-être on rencontre justement l'expérience de la religion qui, et c'est un des points donc intéressants de votre livre, peut venir dans certains cas contrarier cette croissance de l'individu et cette conquête de son identité. Comment cela? Comment la religion peut-elle...
Je dirais dans une certaine éducation religieuse qui a été pervertie. Je parle surtout au passé parce que je pense que c'est beaucoup moins vrai maintenant. Mais il y a quelques décennies, il y a 20 ou 30 ans, l'éducation religieuse pouvait être très culpabilisante, très infantilisante aussi.
Et il y en a encore des traces donc sur les personnes adultes encore... d'aujourd'hui.
Oui, oui, puisque moi j'en entends parler dans mon cabinet. Mmh. Et là, ça peut continuer à bloquer.
Mmh. Et alors quoi dans la religion? Qu'est-ce qui dans la religion peut venir contrarier cette quête de soi?
Des choses de la religion qui ont tendance à faire qu'on met l'angélisme en avant.
Oui.
Voilà, on idéalise.
Oui.
C'est-à-dire, on demande à l'enfant d'être déjà sage alors qu'il n'est pas, par exemple, suffisamment grand pour pouvoir l'être.
Mm-hmm.
Et on le culpabilise s'il ne l'est pas.
Mm-hmm.
Donc, il y a les péchés, il a mal fait, il faut qu'il aille se confesser. Et il y a toute une éducation qui va dans le sens, effectivement, de la culpabilisation de l'enfant et que sa spontanéité, à ce moment-là, n'est pas bonne. Il doit la retenir, il doit se rigidifier et contrecarrer ses pulsions.
Et j'ai compris aussi en vous lisant que ce qui était important pour grandir, c'était de faire face à la réalité et de ne pas fuir dans l'imaginaire,
voilà,
dans l'idéal.
C'est pour ça que je parlais d'angélisme il y a un instant. Effectivement, parce que moi j'ai entendu des personnes parler, par exemple, des exemples qu'on leur avait donnés, de saints, de martyrs, et tout de suite il fallait qu'elles soient très élevées, être dans la sphère de Dieu, mais elle perdait pied à ce moment-là. Elle vivait dans un rêve, dans imagination.
Un monde imaginaire, oui.
Mais par contre, toute leur spontanéité d'enfant était emmurée. Je pense à un exemple que je cite dans mon livre. C'était une enfant hyper sage, mais elle était dans un monde imaginaire. Elle avait perdu pied avec la réalité. Ah, la chute a été dure après.
Ah, oui, c'est ça. Et c'est pourquoi vous avez cette expression que les psychanalystes ont parfois de névrose chrétienne, voire psychose chrétienne,
oui,
qui est un peu choquant.
Je vais jusqu'à psychose chrétienne parce que des fois, c'est vraiment l'identité même du moi qui est tellement attaquée ou qui n'a tellement pas pu se constituer à cause de déficiences à la fois familiales, on ne peut pas tout mettre sur la religion, hein. C'est évident qu'il y a le contexte familial qui joue en premier, mais l'environnement autour et religieux peut contribuer à ça.
Oui, oui. Alors ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage et original, c'est que vous analysez le rôle ambivalent de l'institution religieuse comme telle, à la fois bonne, à la fois mauvaise,
comme toute institution.
Alors le négatif, en quoi est-ce que l'institution peut venir conforter une névrose ou une psychose?
Voilà, une institution a des pôles positifs, ça c'est incontestable, mais puisque vous voulez que je parle des pôles négatifs, c'est dans le sens où toute institution peut avoir tendance à s'enfermer sur elle-même et à ériger des vérités comme des dogmes. Bon, je caricature, hein, parce que c'est plus ou moins vrai, et suivant les endroits, suivant les stades, etc. Mais c'est vrai qu'on sait que c'est une des dérives possibles. Donc l'institution peut effectivement, si elle tombe dans l'excès, créer des vérités dogmatiques et il faut y adhérer, sinon on est considéré comme mauvais et on doit être rejeté ou exclu ou excommunié.
Et alors du coup, on n'est plus dans l'attitude qui consiste à être ouvert et à considérer qu'il faut encore chercher ailleurs et que
comprendre
ce qui se passe.
Et pourquoi la personne pense différemment, fait voilà. autrement et comprendre si elle a la légitimité ou pas.
Par la cure psychanalytique, on peut donc, Marie Romanens, espérer se défaire des caricatures de la religion, mais pas nécessairement de la religion elle-même. La psychanalyse serait donc une chance pour la religion ? Dans certains cas,
c'est une grande question. Se défaire des caricatures, ça peut arriver. Il m'est arrivé d'avoir des patients qui parlaient à certains moments des mauvais aspects de l'éducation qui avaient contribué à entériner des blocages en eux. Bon, des blocages qui ne venaient pas seulement de la religion, c'est bien évident, mais ça avait un peu comme enfoncé le clou.
Oui.
Donc, de pouvoir en parler, d'avoir fait leur cure, a permis aussi de prendre un recul par rapport à cette éducation et à s'en dégager.
Oui. Est-ce que c'était une chance pour la religion, toujours, donc la psychanalyse, oui.
Ben, c'est-à-dire, elle peut permettre de différencier ce qui est du purement religieux et puis de ce qui est des symptômes psychiques, c'est-à-dire d'une déviation de la religion qui sert à ce moment-là à une éducation perverse et malsaine, imprégnée de pathologies psychologiques.
Oui, donc il ne faut pas nécessairement avoir peur de la psychanalyse. Elle peut
aider à débroussailler le terrain.
Et voilà, elle ne remplace pas, bien sûr, d'autres types d'aide. Et cette position que vous défendez, donc qui laisse à la psychanalyse et à la religion un champ de travail en correspondance, en quelque sorte.
Fait.
Est-ce que vous êtes nombreux à le tenir, enfin à la tenir, cette position, ou est-ce qu'au contraire, vous n'êtes pas très seul?
Non, pas seul, parce que de plus en plus de personnes s'intéressent à cet échange. Il y a eu les ouvrages de Marie Balmarie, de Françoise Dolto avant,
oui,
il y a Denis Vasse, il y a Maurice Bellet, et d'autres qui s'intéressent à ces questions-là. Je crois qu'on est de plus en plus à s'interroger sur les ponts
oui.
qui peuvent être possibles entre les deux domaines.
Oui. Est-ce que la présence des femmes comme psychanalystes est un élément favorable?
On me l'a
pour
dit et j'ai tendance à y croire.
Moi aussi. Votre critique de la religion porte sur une éducation religieuse catholique, très rigide, formaliste, qui étouffe l'intériorité. Hein, vous nous avez dit tout à l'heure, cette forme d'éducation aujourd'hui, elle a pratiquement disparu. Alors, est-ce que les comportements libéraux, très libéraux d'aujourd'hui, conduisent à finalement permettre un meilleur accès à la spiritualité, ou bien est-ce que ces comportements libéraux ont eux aussi leurs inconvénients pour la construction psychique de l'individu?
Oui, il semble qu'on soit tombé d'un excès dans un autre, c'est-à-dire il y avait trop d'autorité, et bon, après 68 surtout, ça en a pris un coup.
Oui, oui.
Et puis, bon, aussi l'éducation religieuse dans son trop grand autoritarisme qu'on décrivait tout à l'heure. Bon, là aussi, maintenant, bon, je crois qu'on en sort vraiment, mais je crois qu'on est tombé dans l'excès contraire, avec un excès de libéralisme et un trop laisser faire l'enfant, ce qui n'est pas bon non plus.
Pourquoi?
Le pendule a été dans l'autre sens.
Pourquoi?
Parce que on a parlé des pertes nécessaires pour la construction de l'enfant, qui devient de plus en plus adulte à travers ces pertes se font grâce à des limites, c'est-à-dire à un moment on dit non, plus ça.
Donc ça c'est important.
Mais cette limite, il faut qu'elle soit posée de façon juste, pas d'une façon arbitraire et autoritariste, mais il faut qu'elle soit posée.
D'accord.
Et là, je crois qu'on a été trop
un peu trop loin. Oui. Et aujourd'hui aussi, nombre de nos contemporains s'intéressent à d'autres spiritualités, notamment le bouddhisme. Votre regard de psychanalyste sur cet intérêt?
D'une part, moi, je m'y suis intéressée moi-même, ce que je dis à un moment dans mon ouvrage. Je pense que c'est très important cette ouverture actuellement dans le monde occidental parce que justement, enfin en tout cas pour moi c'est comme ça que je l'ai vécu, je pense que pour d'autres aussi, on échappait justement à l'autoritarisme, à la culpabilisation, à une trop grande rigidification et que le bouddhisme apparaît plus comme une philosophie, comme une réflexion et qui vient de nouveau nourrir la quête intérieure alors qu'elle était en désaffection, on peut dire.
Oui.
On était plus tourné vers il faut faire des choses extérieures, réussir des choses extérieures, montrer des choses extérieures, mais en tout cas dans l'éducation qui nous était donnée, on ne nous donnait pas assez le fil de l'écoute intérieure. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas dans le christianisme, hein,
oui,
ça,
oui,
je
oui.
fais bien la différence.
Oui, c'est ça, ça a été un moyen en quelque sorte pour retrouver ce que
voilà.
l'éducation religieuse trop rigide n'avait pas permis de rencontrer.
De sentir assez, ou
oui.
de sentir assez, cette
oui.
quête intérieure.
Et est-ce qu'il n'y a pas des, comment dire, sur le plan psychologique, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une fuite aussi de certains esprits en allant vers le bouddhisme?
Oui, moi j'ai trouvé ça, j'ai rencontré ça effectivement chez certaines personnes assez fragiles et c'est toujours la possibilité de dériver dans les religions en allant dans des sphères éthérées et bon, en croyant que qu'on est déjà presque initié alors qu'on est encore bourré de problèmes psychologiques. Ça c'est vrai qu'il y a des personnes qui en sont là et qui devraient un peu plus ouvrir les yeux sur l'aspect psychologique des choses, mais chaque chose en son temps.
Oui, finalement, Marie Romanas, quelles que soient les conditions concrètes d'existence, l'accès à l'identité, c'est difficile.
Archi difficile.
Quelles sont les qualités que vous voyez en deux mots, les qualités importantes pour construire cette identité?
Eh bien, je pense à l'humilité, ne pas se croire plus qu'on est, oser se regarder comme on est, donc l'écoute aussi. S'écouter.
L'écoute. Donc, nous étions avec Marie Romanas pour son livre Le Divan et le Prie-Dieu aux éditions Desclée de Brouwer et à la technique, Philippe Faure.